les églises catholiques orientales, c'était la première fois qu'elles obtenaient un code en entier pour leur discipline commune. Auparavant, il existait seulement des législations partielles à l'égard de ces églises, et donc avec le code des canons des églises orientales qui a été promulgué en 1990, c'est la première fois qu'un code en entier était disponible pour ces églises catholiques orientales. Ce qui veut dire aussi, je pense, que avec cet événement, elles sont arrivées sur un pied d'égalité avec l'Église latine. D'autre part, on peut dire aussi que l'importance n'existe pas uniquement pour les églises catholiques orientales, mais même pour l'Église latine. Les fidèles et les autorités de l'Église latine peuvent se rendre compte encore mieux maintenant que l'Église catholique et l'Église de rite latin ne sont pas identiques. Il faut tenir compte du fait qu'il existe des églises catholiques orientales au sein même de l'Église catholique, et à côté des églises catholiques orientales, existe aussi une église qui suit un rite latin, même si cette église est quand même majoritaire par le nombre de ses fidèles partout dans le monde.
Alors, qu'est-ce que ça signifie, justement, un code de droit canonique oriental? Quelles sont ses caractéristiques?
Il y a plusieurs caractéristiques. Premièrement, par exemple, le fait que pour ces églises, il est très important de respecter ce qu'on appelle le patrimoine commun du premier millénaire de l'histoire de l'Église. Donc là, on se réfère plutôt au concile œcuménique, aux synodes qui étaient des assemblées plus locales, des évêques. Il y a aussi des écrits des pères de l'Église. Il y a une collection qu'on appelle le canon des apôtres. Et le pape Jean-Paul II lui-même, quand il a promulgué ce code, il a souligné son importance parce que les premiers mots du texte de promulgation se réfèrent précisément à ce patrimoine commun qu'on appelle les canons sacrés. Donc les canons, c'est le mot grec pour les règles, les normes, et on les appelle sacrés parce qu'on part de l'idée que les évêques qui se réunissaient dans ces assemblées étaient inspirés par l'Esprit Saint. En même temps, ça veut dire aussi, puisque c'est un patrimoine commun, on peut dire que même les églises orientales, qui ne sont pas encore dans la pleine communion avec l'Église catholique, partagent ce même patrimoine. Donc c'est un point commun entre les églises catholiques orientales et les autres églises orientales. À cause de cela, toujours le pape Jean-Paul II, il a souligné le fait que les églises catholiques orientales ont un rôle important à jouer dans le dialogue œcuménique, précisément avec ces églises orientales, afin de rétablir l'unité entre les chrétiens, parce qu'elles sont assez proches par le partage de ce même patrimoine commun. Donc on arrive à l'importance de l'œcuménisme, qui est une deuxième caractéristique du code dans son ensemble. On essaie aussi de manifester que, par exemple, un fidèle, en effet, qui se convertit et qui veut devenir catholique, il doit quand même maintenir son identité religieuse d'avant. Ce qui veut dire, par exemple, il doit maintenir son rite propre. Concrètement, si on prend par exemple un copte orthodoxe, lorsqu'il veut devenir catholique, il doit maintenir son rite. Et donc, il sera copte catholique. Autrement dit, c'est un signe vis-à-vis de ces églises que devenir catholique ne veut pas obligatoirement dire qu'on doit devenir de rite latin. Et troisième caractéristique, il y a dans ce code pas mal de place attribuée aux droits particuliers. Chacune de ces églises a connu une évolution propre par les circonstances locales et les circonstances historiques qui ont coloré les traditions de chacune de ces églises. Et la possibilité d'émettre des lois d'un droit particulier permet précisément de rester proche des traditions de chacune de ces églises. Donc vous voyez, c'est une sorte d'équilibre qu'on a essayé d'établir entre ce qui est en commun entre tous et ce qui est la base pour avoir fait un code qui soit un code en commun pour les 21 églises catholiques orientales qui sont reconnues aujourd'hui, et en même temps de laisser une place aux particularités des traditions de chacune de ces églises.
Vous avez parlé d'œcuménisme. Le pape a rappelé lors du congrès le rôle important des églises orientales catholiques pour offrir une contribution particulière au chemin œcuménique avec les églises orthodoxes. Où en est le dialogue aujourd'hui entre les églises orientales catholiques et les églises orientales orthodoxes ?
Pendant certains temps, les dialogues étaient un peu bloqués, pour ainsi dire, mais ces dernières années, il y a de nouveau des réunions pour essayer de trouver des accords. Et je pense que ça, c'est très important. Donc, il y a au moins des réunions une fois par an entre la commission officielle de la part de l'Église catholique et les représentants des églises orthodoxes pour essayer de trouver des accords. Et en ce moment, un des sujets importants est précisément, par exemple, la primauté du pontife romain et le rôle qu'il peut jouer. Donc, il est vrai que les orthodoxes voient plutôt un rôle d'une primauté d'honneur pour le pape. Donc, ils reconnaissent bel et bien qu'il est le premier parmi les évêques. Mais la forme que cette primauté a prise dans l'Église catholique n'est pas tout à fait conforme à leur conception de cette primauté. Parce que dans l'Église catholique, on a plutôt une conception juridique de cette primauté qui veut que, par exemple, le pape peut intervenir partout et quand il veut. Donc, je pense que c'est encourageant qu'au moins les contacts et les dialogues ont repris et que, même si c'est lent parce qu'il faut bien évidemment du temps, que ça va quand même en avant pour essayer de rétablir en fin de compte l'unité entre tous.
Alors, le congrès qui s'est tenu le week-end dernier était également une manière de faire le point, 20 ans après. Est-ce que le texte législatif a réellement eu force de loi pour l'ensemble des églises orientales catholiques ?
Oui, justement, c'était ça un des points intéressants de ce congrès. Par exemple, le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales a essayé de montrer les incidences de ce nouveau code dans la vie de ces églises. Et donc, concrètement, on a pu constater que plusieurs de ces églises catholiques orientales ont adapté et révisé les structures sur le plan juridique pour intégrer vraiment ce nouveau droit. Et donc, ça a apporté un certain nombre de changements quand même. Donc là, on voit effectivement une certaine évolution qui était visible précisément sur le droit particulier. Donc il y a eu des rapports de différentes églises pour montrer le droit particulier que ces églises ont pu porter ces dernières années. Et parfois, là aussi, il y a déjà eu des révisions. Donc c'est vraiment un processus qui progresse en permanence, je pense. Ce qui montre aussi que le droit canonique, c'est pas quelque chose qui reste fixé une fois pour toutes. C'est une réalité qui doit vraiment accompagner la vie et donc évoluer à son tour.